Et l'invité de France Inter jusqu'à 9h est le député LR de l'Oise, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Éric Woerth, bonjour.
Bonjour.
Alain Juppé a annoncé hier qu'il prenait du recul vis-à-vis du parti Les Républicains. Il ne payera pas la cotisation pour 2018. Ça vous a surpris ou vous vous y attendiez?
Ça ne m'a pas tant surpris que cela. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour Alain Juppé, je le dis, mais ça ne m'a pas tant surpris que cela. C'est un peu les répliques, comme dans un tremblement de terre de la primaire, tout ce qui s'est passé en 2017, où finalement ça a avivé les tensions à droite, une année désastreuse du début jusqu'à la fin. Donc ça a avivé les tensions à droite, probablement rendu moins forte l'envie d'un certain nombre de vivre dans une famille politique élargie, c'est-à-dire dans lesquelles coexistent un certain nombre d'options de droite qui peuvent être différentes, qui vont du centre-droit jusqu'à une droite plus traditionnelle. Ça vivait très très bien au sein de l'UMP, ça a bien vécu au sein des Républicains pendant longtemps, ça me semble important de tout faire pour qu'on continue à le faire. Certains considèrent que c'est pas possible ou ne veuillent pas.
Vœux pieux de votre part.
On est à la période des vœux, donc bonne année aux Républicains. Bonne année aux Républicains, parce que pas uniquement pour une formation politique, parce que ça, ce serait finalement assez anecdotique, mais on a besoin d'une opposition en France, et on a besoin d'une opposition dans toute démocratie. Ça ne veut pas dire d'une opposition stupide, caricaturale, d'une opposition intelligente qui puisse dialoguer avec une majorité et offrir des solutions d'alternance, une alternative dans le champ républicain. Et les Républicains, le parti politique, représente cela.
Est-ce que vous vous attendez à d'autres départs dans les jours ou les semaines qui viennent, Éric Woerth?
Enfin, je n'en sais rien. Il faut quand même.
Vous l'attendez, vous le craignez, vous le redoutez.
Oui, je le redouterai. Si ça arrive, je le redoute. Moi, je crois qu'il faut garder la cohésion des Républicains. Laurent Wauquiez, aujourd'hui président des Républicains, il commence à peine le travail de restructuration, de rénovation des Républicains qui ont été extraordinairement affaiblis par ce qui s'est passé en 2017.
Il faut quand même lui laisser le temps
d'installer cette opposition, que l'opposition trouve sa place dans une majorité un peu chewing-gum, qui prend des mesures à gauche, qui prend des mesures à droite,
qui
prend des gens chez les Républicains, qui en prend à gauche, qui en prend un peu partout, mais c'est le principe des centres de gauche ou droit. À partir du moment où ils sont attractifs, ils vont prendre des gens à droite et à gauche. Il faut aussi entrer dans le 21e siècle. Les Républicains, ils doivent sortir d'une image peut-être parfois un peu passéiste. Ils doivent montrer qu'ils ont compris que la société française, elle allait bouger comme la société dans le monde entier. Et on l'a compris. Il faut le mettre en œuvre. Il faut donner envie de droite.
Est-ce que tout le travail que doit faire Laurent Wauquiez, vous l'avez décrit à l'instant, est-ce que la condition de possibilité de ce travail, ça n'est pas tout de même d'être capable de rassembler sa famille plutôt que de la diviser?
Si, vous avez absolument raison. C'est pas parce que tel ou tel leader, même si important soit-il,
fondateur de l'UMP Alain Juppé.
Oui, mais Alain Juppé a connu beaucoup de difficultés dans sa vie politique. Et on voit bien que il est reparti à l'élection primaire et finalement il devait la gagner, il l'a perdue. Finalement, devait gagner l'élection, l'a perdue aussi. Donc on a beaucoup perdu. Tout ça laisse beaucoup de traces. Et je pense qu'il est à un moment donné de sa vie politique où il estime que il a probablement dit beaucoup de choses à sa famille politique, il n'a pas envie, ou en tout cas il dit pas qu'il en parle, il dit qu'il prend un peu de recul, mais je crois que ça se résume pas à ça. La vraie question, c'est comment on embarque tout le monde et j'espère tous les Français dans une vision de l'avenir du pays, qui est une vision du 21e siècle, dans lequel les rapports sociaux, les rapports économiques vont profondément se transformer, et quel est le message de droite pour assurer l'avenir de ce pays et l'avenir de l'Europe.
Encore deux questions sur le sujet. Vous ne pouvez pas ne pas vous interroger sur les raisons profondes d'une telle fuite. Il ne s'agit pas que d'éléments conjoncturels ou de d'ego ou d'ambition déçue. Entre ceux qui sont partis au gouvernement, ceux qui se disent constructifs, ceux qui partent du parti, ceux qui se mettent en retrait, ceux qui restent mais ne cautionnent pas. Que se passe-t-il vraiment sur le plan idéologique ? C'est sans doute aussi une crise idéologique.
Oui, les partis politiques connaissent des crises. Les partis politiques sont indispensables au fonctionnement de la démocratie.
Et mortel.
Et mortel, sans doute. Mais ils renaissent autrement. Moi, je crois à cette vision qui est un grand parti de droite et pas des partis fractionnés au fur et à mesure du temps. Parce que
mais
je pense que la réponse pour
possible,
le pays, c'est une réponse globale.
Eric Woerth,
et donc
aujourd'hui,
les partis doivent être les plus globaux possibles à leur leader de montrer qu'ils ont compris cette globalité et qu'ils assument cette globalité.
Pourquoi un moment fondateur comme celui de l'UMP ? L'UMP est né dans une crise politique extraordinairement profonde.
Ouais. Elle avait été très contestée d'ailleurs à l'époque.
Pourquoi ce moment fondateur n'est plus possible aujourd'hui alors que la crise politique, en tout cas à droite, aussi profonde ?
Vous dites que c'est plus possible, ça reste à vérifier.
Il faut du temps.
On relève d'une crise très très importante. Aujourd'hui, on a un patron des Républicains, il s'appelle Laurent Wauquiez. Il faut cesser probablement ces sortes de sport national qui est d'attaquer Laurent Wauquiez le matin, le midi et le soir. Laurent Wauquiez est président des Républicains. Il est membre des Républicains, il est président des Républicains, il a été bien élu. Il faut aujourd'hui qu'il soit à la hauteur de sa tâche, c'est-à-dire président d'un mouvement global de droite qui présente une vision de la société qui n'est pas la vision du passé, qui n'est pas un repli sur soi, qui est une vision, je pense, profondément européenne, mais d'une Europe qui sache changer et s'adapter aux peuples, aux besoins des peuples d'Europe, et puis qui joue cette carte de la protection et du développement. Nous devons mieux protéger, mais nous devons aussi permettre à notre pays de se développer et de développer. Alors, en face de cela, il y a un gouvernement actif, il y a un gouvernement qui réforme. Franchement, c'est plus facile de s'opposer quand c'est François Hollande. Ça, c'est sûr. Lorsqu'il n'y a pas grand monde à l'Élysée, c'est plus facile et qu'il n'y a pas de structure. Aujourd'hui, le président de la République, il lance un mouvement très large.
Et de droite, point d'interrogation, d'après vous, Eric Woerth.
Il est de droite à un moment donné, de gauche à un autre moment.
Sur l'économie, flat tax, ISF, loi travail.
Je crois quand même que ces critères, ils vaillent. Les critères de droite et de gauche, on peut les appeler autrement si ça dérange. Mais en tout cas, il y a bien des visions différentes de la société française.
En tout cas, il a fait beaucoup de choses.
Il n'était pas uniquement du pragmatisme. Le pragmatisme ne suffit pas. Le pragmatisme n'est pas une vision pour la France.
Il a fait beaucoup de choses dont la droite rêvait. Ça, ce sont des gens de droite qui le disent. Est-ce que vous dites au moins flat tax, ISF, loi travail, chapeau ?
C'était dans nos projets. Je ne dis pas chapeau, je dis c'était dans nos projets. On l'a soutenu d'ailleurs, on l'a dit. Il l'a fait. Tant mieux, c'était nécessaire. Mais c'est un retour parfois en arrière. La flat tax, elle existait auparavant, elle était remise en avant. Je suis d'accord avec tout ça. Sur le code du travail, je suis aussi favorable. Ça ne me dérange pas de le dire, bien au contraire, ça va dans un sens qui me convient. Mais on voit bien que les résultats ne sont pas tout à fait cela. Les études récentes sur le pouvoir d'achat, elles le montrent. Les études de l'OFCE, qui est plutôt classée à gauche, ou de l'INSEE au mois de décembre. Et ce que nous disions, alors on est moins crédible que les organismes économiques, mais on l'a dit tout au long du débat budgétaire, montre que le pouvoir d'achat, il ne va pas progresser autant. Et d'ailleurs, c'est le pouvoir d'achat d'ailleurs des plus aisés qui va augmenter très fortement cette année ou en 2018. Les 5% les moins aisés des catégories de Français perdront 60 euros de pouvoir d'achat. C'est l'OFCE qui le dit, l'OFCE. 42% des baisses de la fiscalité concernent les 5% les plus aisés. C'est un choix. Moi, je crois que l'économie, elle doit être de plus en plus forte. Et je pense qu'il faut aider les entreprises avant les ménages. Il faut aider les entreprises à avoir les marges suffisantes pour investir dans une société de connaissances. Et puis, il faut aider aussi les Français à se qualifier. Donc, il faut beaucoup, beaucoup de travail sur la formation.
L'OFCE a donc indiqué hier que les premières mesures d'Emmanuel Macron, voilà les chiffres vont surtout profiter, je cite l'OFCE, aux 5% des ménages les plus aisés qui capteraient 42% des gains liés à ces réformes. Est-ce que vous dites sur le sujet, à partir de ces chiffres, qu'Emmanuel Macron, est-ce que vous le dites comme d'autres, qu'Emmanuel Macron est le président des riches ?
Non, moi j'emploie pas cette expression parce que je la trouve tout à fait détestable. Puis on est toujours le riche de quelqu'un. Je pense que c'est non, je flatterai pas les
privilégiés,
les jalousies françaises dans ce cas-là.
travailleurs des classes les plus aisées.
Je note simplement que à ce moment-là, il faut qu'ils l'assument. Moi, ça ne me dérange pas d'aider les plus aisés s'ils investissent et si derrière on s'y retrouve en termes d'emploi et si ceux qui aujourd'hui sont les plus éloignés de l'emploi en trouvent un et si le pouvoir d'achat augmente.
Vous croyez à ce cercle vertueux ?
Moi, je crois au cercle. Je crois au cercle vertueux de la croissance. On aura 2% de croissance cette année, à peu près. Ça, c'est pas une croissance due à Emmanuel Macron. C'est la croissance due à un monde qui va mieux et à une Europe aussi. Aux mesures aussi, d'ailleurs, de François Hollande entre nous, ces mesures de CICE qu'on avait plutôt saluées. Ces mesures, elles produisent des effets quelques années après. Bah, c'est tant mieux. Il faut utiliser cette croissance. Et cette croissance, elle n'est pas suffisamment utilisée. Elle a été utilisée à tort sur la taxe d'habitation. Elle a été utilisée à tort sur l'augmentation massive de la CSG. Quelle drôle d'idée de réduire le pouvoir d'achat des retraités pour augmenter le pouvoir d'achat des actifs. C'est une drôle d'idée. Donc on conteste cela. C'est un débat. Et ce débat, on doit l'avoir et on doit continuer à l'avoir. Il faut aller plus loin, plus fort, plus vite dans les réformes de notre pays si on veut l'adapter aux standards de la vie d'aujourd'hui et si on veut que chacun y trouve son bonheur.
Éric Woerth, vous étiez le trésorier de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Contrairement à ce que vous disiez dans le cadre de l'affaire Bettencourt, vous avez reconnu avoir reçu de l'argent liquide par enveloppe anonyme pendant cette présidentielle. Aux enquêteurs, vous avez indiqué avoir songé à faire don de cet argent à une œuvre caritative ou à le détruire. L'argent a finalement été distribué à des salariés militants. Pourquoi ne pas avoir déclaré ces sommes à la Commission nationale des comptes de campagne.
J'aurais sans doute dû le faire. À l'époque, on n'y a pas pensé. C'était pas beaucoup d'argent. On l'a distribué aux salariés qui avaient beaucoup donné.
C'était combien d'argent ?
C'était quelques dizaines de milliers d'euros. Je l'ai indiqué à la police à ce moment-là.
Et vous regrettez donc de ne pas avoir déclaré ces sommes ?
Probablement, on aurait dû le faire. Oui, c'est bien sûr, bien sûr.
Est-ce que vous craignez dans l'ensemble de ces affaires d'être mis en examen et notamment dans celle que je viens de...
Moi, je crois rien du tout. Je suis pas du tout. Je suis pas gêné avec ce que j'ai fait. J'ai expliqué très calmement. L'affaire suivra son cours. Si elle suit son cours, je suis très détendu là-dessus.
Vous faites confiance à la justice pour faire toute la lumière sur cette ténébreuse affaire ?
Quelle ténébreuse affaire ? Ça, c'est différent. C'est pas ténébreux du tout. De toute façon, je fais d'une manière générale confiance à la justice.
Quand les enquêteurs disent que vos arguments sont captieux, destiné à tromper.
Non, c'est pas destiné à tromper. Vous savez, les enquêteurs, ils ont toujours envie d'enquêter dans ce sens-là. C'est le rôle de la police, me semble-t-il. Non, je suis tout à fait à l'aise avec cela. Et je crois que j'ai bien fait de faire cela dans les circonstances qui étaient les circonstances de l'époque.
Il est 8h35, Éric Woerth. On vous retrouve avec Léa Salamé, les auditeurs de France Inter, juste après la revue de presse de Claude Ascolovitch.